Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal vespéral, reprise timide cet après-midi du trafic routier sur certaines artères de la capitale Kinshasa par les conducteurs des taxibus et taxis. C'est après une grève observée ce matin sur appel de la synergie des associations des chauffeurs. À Ituri, près de 4000 déplacés en détresse installés depuis janvier 2023 sur le site de Djangui dans les territoires de Djougou ont besoin d'une aide en urgence. Ces personnes affirment ne pas avoir accès à leur champ à cause de la présence des hommes armés là-bas. L'invité de ce journal est la directrice de la prison centrale de Kabaré au sud Kivu. Pamela Mouindo parle de quelques stratégies mises en place par cette maison carcérale pour préparer les prisonniers à la réinsertion sociale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelques taxibus et taxis sont visibles sur certaines artères de la ville de Kinshasa depuis le début de l'après-midi de ce lundi. Les chauffeurs ont arboré les rameaux sur les véhicules comme pour dire qu'ils sont en panne. Mais en réalité, c'est pour tromper la vigilance de leurs collègues qui les caillassent. Une grève des chauffeurs de taxis et taxibus a été observée sur toutes les routes de la capitale le matin. C'est sur appel de la synergie des associations des chauffeurs. Ils s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de tracasseries multiples et autres arrestations arbitraires dont ils sont victimes. Cette situation a mis en difficulté la population usagère du transport en commun dans la capitale. Chris Bandundu et Jemima Mbuyulu nous décrivent la situation des routes ce matin à Kinshasa.
À part les bus de la société étatique, Transco et quelques rares privés, tous les autres conducteurs de transport en commun ont décidé de ne pas travailler. Conséquence, les arrêts de bus étaient bondés de monde ce matin un peu partout dans la ville. Une marée humaine marchait à pied le long des grandes artères, fatiguée d'attendre un moyen de transport qui n'arrivait pas. Beaucoup ont rejoint difficilement école et autres lieux de travail. Témoignage.
Je constate que beaucoup de monde qui n'a jamais existé ici, mais je ne sais pas la vérité, mais je constate seulement. Moi-même, je suis en difficulté pour me rendre au rond-point Gap. Je ne sais pas par quel bout commencer. Et à cet âge ici, vous voyez que ça cause des difficultés.
Nous sommes ici depuis 5 heures. Nous arrivons, on nous informe que oui, des chauffeurs ont grévé. Parce qu'ils ont tenté de demander qu'on puisse libérer les groupes de la police qu'on appelle Oudiana de quitter les circulations routières. C'est ça la cause de cette grève.
Ce sont alors des taxis motos qui ont pris la relève. Et l'occasion faisant le larron, le prix de la course a été majoré. Au niveau de Pont-Matété, des chauffeurs de taxi-bus qui ont tenté de sortir leur véhicule ont été agressés par leurs collègues en connivence avec des motards qui eux aussi disent souffrir du même traitement. Certains taxibus ont été caillassés. Ce fut aussi le cas au rond-point Gaba, à Bandalungwa et à Kitambo Magasin. Cette grève, qui n'est qu'à son premier jour, devra prendre 3 jours selon le chauffeur gréviste si aucune solution n'est trouvée à leurs revendications.
Pendant ce temps, l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, qui s'est dit être la plus grande association des chauffeurs, regrette d'avoir été écartée de la commission mise en place par les autorités de la ville et la synergie des associations des chauffeurs pour juguler cette crise. Pour elle, c'est ce qui explique le fait que la décision prise par cette commission de sursoir cette grève n'a pas été suivie. Jean Moutombo, vice-président de la SECO Kinshasa, explique au micro de Blaise Sindani Kambala.
Les autorités ont appelé la synergie du chauffeur. Ils se sont vus premièrement avec le ministre provincial des Transports, le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa et enfin avec le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Après des pourparlers, ils ont lancé le communiqué final pour dire que la grève est suspendue afin que les solutions puissent être trouvées. La première solution qui a été trouvée, c'est le ministre provincial des Transports de la ville de province de Kinshasa qui a donné un moratoire de 10 jours afin qu'il n'y ait pas contrôle des documents. Là, il s'est expliqué pour dire qu'effectivement, que c'est la ville qui est fautive par le fait qu'il ne livre pas le note de perception, il ne livre que les invitations. Pour la tracasserie, nous avons lu les communiqués finaux de la synergie des chauffeurs qui malheureusement n'a pas associé la SECO dans ces discussions. Alors que la SECO c'est l'une des plus grandes associations de la République démocratique du Congo. Et voilà donc, ils ont fait les communiqués finaux sans toutefois associer la SECO. Pour les autorités de la ville, moi je pense que les pourparlers sont là et nous demandons aussi que nous soyons aussi inclus dans les pourparlers parce que nous gérons un grand nombre de chauffeurs. Nous ne pouvons pas être mis de côté dans ce sens-là pour que nous puissions parler le même langage et pour que toutes ces histoires puissent prendre fin.
Nord Kivu, la circulation est paralysée depuis ce matin dans la ville de Beni. Plusieurs motards empêchent la circulation dans plusieurs artères de la ville, des taximotos, les moyens de transport les plus utilisés dans la ville. Ils disent que cela est en signe de deuil de leurs collègues tués par balle dimanche, tôt le matin devant son domicile au quartier Kalinda de la commune de Moulekera. Certains motards qui refusent de respecter ce mot d'ordre sont en train de se faire agresser. Certains propriétaires de véhicules ont eu également peur de faire sortir leurs engins par peur d'être prise à partie. Conséquence, depuis le matin, plusieurs personnes ont difficulté de se rendre dans leur lieu de travail. Près de 4000 déplacés en détresse installés depuis janvier 2023 sous le site de Djangui dans le territoire de Djougou ont besoin d'une aide en urgence. Dans leur déclaration, elles affirment ne pas avoir accès à leur champ à cause de la présence des hommes armés. Dans un mémorandum adressé au secrétaire général en charge des maintiens de la paix qui s'est rendu hier dimanche sur place, les comités des femmes et des enfants ont demandé à leurs hôtes de plaider auprès du gouvernement pour que leurs conditions de vie soient améliorées. Le point avec Jean-Claude Lokidile qui revient de la zone.
C'est depuis le 8 janvier 2023 que ces déplacés sont installés sur le site de Djangui après avoir subi des attaques des rebelles de Codeco. 6 mois après, ces personnes affirment n'avoir jamais bénéficié d'une assistance en vivres. Des femmes ou jeunes filles qui tentent de se rendre au champ pour chercher des vivres sont parfois violées. D'autres y perdent leur vie, comme le témoigne cette dame.
Les femmes souffrent énormément. Elles ne savent même pas arriver au champ ou aller puiser de l'eau ou encore aller chercher de bois de chauffage. Celles qui osent s'y rendre sont parfois tuées. Certaines femmes ont laissé des orphelins. J'assure la garde d'un bébé de 2 mois dont le parent était abattu lorsqu'ils sont allés chercher des vivres au champ.
Nombreux parmi les enfants, dont certains ont été tués, ont abandonné les chemins de l'école et les infrastructures scolaires détruites par des assaillants, a expliqué l'un des représentants des élèves. À cause de manque de moyens, d'autres ont jugé bon de suspendre leurs études. Ils demandent au numéro 2 de l'ONU de faire leur plaidoyer auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi.
Chers représentants de l'ONU, nous vous demandons de dire au président que nous voulons regagner nos villages avant l'année scolaire 2023-2024 et que nos écoles soient reconstruites.
Jean-Pierre Lacroix a promis de faire le plaidoyer pour mobiliser des ressources nécessaires en faveur de tous ces sinistrés. De retour de Djangui, Jean-Claude Loki, Dile Radio Kapi.
2 personnes, dont un présumé bandit et un motocycliste, sont mortes. Une autre personne est gravement blessée par balle cette nuit dans l'agglomération de Lemba, en territoire de Lukula, au Congo central. C'était lors d'un échange de tirs entre les forces de l'ordre et les bandits armés qui venaient de cambrioler 2 maisons d'habitation. Le commandant du commissariat territorial de Lukula, qui affirme les faits, indique que l'intervention de la police a réussi à mettre la main sur les voleurs. Nana Plurich Mambou revient sur les circonstances de l'incident.
Parmi les 2 personnes mortes, l'une faisait partie des 4 voleurs armés qui ont opéré cette nuit dans l'agglomération de Lemba et dans l'ex-cité d'Enchioni en territoire de Lukula. Il a été lynché par la population après sa chute des motos qui les transportaient. La 2e personne tuée est un motocycliste. Il cherchait à aider la police à mettre la main sur les malfrats lors de l'intervention. Une balle tirée par les bandits l'a atteint et il en est mort. Selon le commandant du commissariat territorial de Lukula, les voleurs provenaient de l'ex-cité d'Enchioni avant d'opérer dans l'agglomération de Lemba, dans la résidence de Mamie Cousin, un opérateur économique du coin. Dans l'ex-cité d'Enchioni, ils ont visité le domicile d'un autre opérateur économique du nom de Kimasi. Ils lui ont tiré 2 balles dans les jambes avant de lui soutirer une importante somme d'argent. Selon le colonel Monga Malasi Christophe, grâce à l'intervention musclée de la police, 2 bandits ont été appréhendés avec une arme de marque AK-47 et 2 chargeurs pleins de munitions. Pour l'heure, la police est en alerte pour tenter de mettre la main sur l'un des voleurs qui a pris les larges pendant l'intervention policière. Le commissariat territorial de Lukula dit attendre un renfort en provenance de Matadi pour rétablir l'ordre. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
4 mai 2023, 4 juin 2023, 30 jours après le drame de Calais au sud Kivu, les recherches sont terminées selon les autorités locales. Les populations sinistrées attendent toujours la délocalisation vers des sites plus appropriés. L'autre besoin manifesté sur place est la réouverture de la route nationale numéro 2, Bukavu-Goma. Cela sur des tronçons impraticables après les inondations qui ont causé la mort de 583 personnes et 5 255 disparus selon le bilan définitif. Cynthia Bachizina Bizana pour plus de détails.
Depuis le passage du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à Kalehe, c'est toujours le statu quo concernant la principale attente des sinistrés qui concerne la délocalisation. Selon la société civile locale, jusque-là, le gouvernement n'a toujours pas disponibilisé des logements appropriés pour ceux qui ont tout perdu. perdu. Par ailleurs, sur le plan des infrastructures, la route nationale numéro 2 Bukavu-Goma est impraticable sur les tronçons Kacheke-Bushushu-Nyamukubi-Nyabibwe. Les travaux évoluent timidement à cause d'une seule machine à l'œuvre, à en croire les sources locales. Aujourd'hui, les recherches sont terminées. Les sites les plus touchés ont été déclarés impropres à l'habitation. Il est prévu qu'on y replante des arbres. Toutefois, si des corps sont retrouvés de façon inopinée, ils sont enterrés avec le concours de la Croix-Rouge qui y a des équipes sur place. Avec eau, vivres, assistance médicale et suivi thérapeutique, quelques organisations humanitaires sont toujours actives sur le terrain pour apporter une réponse holistique à cette crise. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
À Bukavu, au sud Kivu, des centaines de maisons ont pris feu la nuit de samedi à hier dimanche sur l'avenue Kanzaïr, au quartier Nkafu dans la commune de Kadutu. Pour la société civile de Kadutu, les estimations font près de 1000 maisons incendiées. L'origine des feux n'est pas connue jusqu'à présent. Pas de pertes en vie humaine signalées, mais quelques blessés qui seraient déjà conduits dans des structures sanitaires. Jean Kassami est sur les lieux. Voici son reportage.
L'avenue étant érigée sur un site marécageux, la plupart des maisons sont construites en planches, ce qui a facilité la propagation rapide du feu au point de consumer complètement l'avenue habitée par au moins 2000 ménages. Tous les biens ont été calcinés à l'intérieur des habitations. Personne ne pouvait prendre le risque de s'exposer à l'ampleur du feu. Ainsi donc, les sinistrés manquent de tout. Les enfants ne savent plus aller à l'école. Une équipe du gouvernement provincial du Sud Kivu s'est rendue sur les lieux du sinistre ce dimanche et a constitué un comité de crise qui comprend les cadres de base, les confessions religieuses et la société civile communale de Kadutu. Ce comité est supervisé par les services étatiques des affaires humanitaires et de la protection civile. Bonane Wilonja Freddy fait partie.
On a besoin de toilettes pour ceux qui sont cantonnés ici à la coordination, de l'eau, des extensiles de la maison, des nourritures, des bâches, des couvertures, même les moustiquaires, ce sont les besoins fondamentaux.
L'origine du feu n'est pas clairement déterminée, mais certains habitants proches du foyer de l'incendie parlent d'un brasero qui a lâché le feu sur un mur en bois. D'après la même source, l'intervention serait possible, mais malheureusement, la ville ne dispose d'aucun camion anti-incendie. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
123 infrastructures sont en pleine construction dans la province de Maïndombé. Il s'agit de 72 écoles primaires, 43 centres de santé et 8 bâtiments administratifs. C'est dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sous la gestion de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF. Pour en parler, retrouvons Paul Matendo, notre envoyé spécial dans la ville d'Inongo.
Selon la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles, CFF, ces ouvrages sont en pleine construction dans les territoires des Bouloubou, Inongo, Kiri, Koutou, Kwamout, Mouchi, Oshue et Yumbi. Parlant des écoles primaires, le point focal de cette structure, Robert Balingamire, précise que dans chaque territoire, il y a deux bâtiments disposant de 3 salles de classe de 8 mètres de longueur et de 7 mètres de largeur. Chaque bâtiment avec une capacité de 40 élèves. Ajoutez à cela un bloc de latrines séparées pour filles et garçons. Au sujet des centres de santé, plusieurs services y seront organisés tels que la consultation prénatale, le planning familial, maternité et postpartum. Pour ce qui est des bâtiments administratifs, chaque bâtiment est composé de 12 bureaux et d'une salle de réunion. De la ville d'Inongo dans la province de Maïndombé, Paul Matendo, Radio Okapi.
Et puis, les cadres de concertation provinciale de la société civile de Maïndombé appellent les autorités et la population de cette province à accompagner les ouvrages du programme de développement local des 145 territoires sous gestion de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF. Isidore Bolika Bola, président de cette structure, a lancé cet appel en marge de la réunion des consultations organisées hier dimanche en Selengue, chef-lieu du territoire d'Inongo.
Actualité internationale.
Au Sénégal, un calme précaire s'est installé après les violences qui ont éclaté du 1er au 3 juin 2023, notamment à Dakar, la capitale, et Ziguinchor, dans le sud du pays. 16 personnes ont été tuées selon le dernier bilan officiel. Des troubles avaient éclaté dans la foulée de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Et puis les Bissau-Guinéens ont voté hier dimanche pour les législatives afin de renouveler les 102 sièges de l'Assemblée nationale dissoute il y a plus d'un an au cours d'une crise institutionnelle. Les résultats ne sont pas attendus avant mardi soir, au plus tôt, quand un nouveau Premier ministre sera nommé dans ce pays coutumier des crises politiques.
L'invité.
L'invité de ce journal est la directrice de la prison centrale de Kabaré au sud Kivu. Pamela Mouindo parle de quelques stratégies mises en place par cette maison carcérale pour préparer les prisonniers à la réinsertion sociale. Il s'agit notamment d'associer les détenus à l'apprentissage des métiers, une stratégie rendue possible grâce aux initiatives mises en place par la MONUSCO après avoir réhabilité cette maison carcérale l'année dernière. Pamela Mouindo répond aux questions de Rachel Kessembangou.
Madame Mouindo, bonjour.
Oui, bonjour.
Près d'une année depuis la réhabilitation de cette prison, comment évoluent les initiatives mises en place par la MONUSCO dont l'agriculture et l'élevage?
Vous êtes là, nous sommes à la prison de Kabaré. C'est vrai que MONUSCO avait réhabilité cette prison il y a de cela une année. Il a amélioré les conditions de vie de nos détenus en leur donnant de l'espace vraiment vivable, pas comme avant. Ils vivent dans de bonnes conditions, ils dorment bien, ils ont des lits. Et ça fait une année, en tout cas, c'est une œuvre à louer. C'est un partenariat que nous ne cessons pas d'honorer. La MONUSCO, c'est notre partenaire vraiment, je dirais, de première marque dans l'administration pénitentiaire. Par la réhabilitation, personnellement, j'avais trouvé que la MONUSCO avait initié l'agriculture à la prison avec le partenaire d'exécution. Et juste après les récoltes, j'ai vu que vraiment, je ne pouvais pas croiser les bras. Il fallait que cette œuvre soit pérennisée. Et c'est comme ça que nous avons mis la machine en marche avec les détenus. Nous les avons conscientisés aux travaux. Ce sont des détenus condamnés. Ils sont là toute la journée, ils ne peuvent pas rester en cellule. Il faut les apprendre aussi des métiers. Je dirais que tout ce que nous faisons comme métier, agriculture, élevage, nous associons les détenus pour aussi les préparer à la réinsertion sociale. Ce sont eux qui cultivent, ce sont eux qui travaillent. Nous les assistons, nous les soutenons, nous les encourageons. Tout ce que nous récoltons, ils sont les premiers bénéficiaires parce qu'ils en consomment en détention. Si vous les voyez, en tout cas, ce sont des messieurs en bonne santé.
Qu'est-ce que ces détenus cultivent?
Ici, nous appliquons la semence du millet, nous plantons les haricots, nous plantons les patates douces, nous faisons la culture marécageuse, les légumineuses, toutes les sortes, les amarantes, les choux, les poireaux, les carottes, donc toute la culture locale, nous la faisons ici à la prison parce que nous avons de l'espace.
Et ce qui est de l'élevage?
Bon, pour ce qui est de l'élevage, la MONUSCO nous avait octroyé un poulailler, le poule de ponte qui produisait des œufs qu'on vendait à la population externe. Ces projets continuent, mais nous y avons ajouté d'autres qualités d'élevage. Entre autres, nous avons fait un clapier qui nous permettrait d'avoir aussi de l'engrais. Tu vois, nous faisons l'agriculture. Il faut aussi voir comment nourrir aussi les sols via l'élevage que nous pouvons faire. Et il y a l'élevage des chèvres et les poulaillers où nous avons diversifié, pas seulement les poules, mais nous avons mis aussi des canards, des dindons.
Aujourd'hui, la MONUSCO revient encore pour un autre projet du bloc de haute sécurité. En quoi ce bâtiment vous aidera ici à la prison de Kabaré?
Le bâtiment pour lequel nous sommes venus aujourd'hui poser la pierre, c'est la cellule de haute sécurité. La prison de Kabaré, c'est un camp de détention. Un camp de détention consiste à garder les détenus condamnés qui sont là pour purger leur peine. Donc ce sont les détenus chez qui déjà la sentence a été prononcée et ils sont là pour purger leur peine. Parmi lesquels nous supposons qu'il y a des détenus dangereux contre leurs co-détenus, dangereux contre l'administration pénitentiaire, parce que ce sont des gens qui ont des longues peines, 20 ans, 15 ans. Dans leur tête, ils ne peuvent qu'imaginer fuir ou faire ceci. Alors, pour la sécurité de la prison, pour la sécurité des détenus entre eux, ces bâtiments s'avèrent être très importants pour que, une fois bien érigés, nous y mettrons des détenus dangereux. Dangereux envers leurs co-détenus, dangereux contre l'administration pénitentiaire. Donc, c'est un bâtiment de haute sécurité. Il sera construit en tenant compte de mesures sécuritaires possibles et dans les normes de la modernité actuellement.
Et combien de détenus avez-vous à ce jour?
À ce jour, nous avons un effectif de 206 détenus.
Il n'y a aucun problème de malnutrition, aucun problème de santé avec eux.
En tout cas, une année depuis que nous sommes là, nous avons zéro cas de malnutrition, zéro cas de décès. Si vous y entrez, tous les détenus sont en bonne santé. La preuve en est qu'il y a même des détenus qui vont travailler au chantier. Un détenu mal nourri, un détenu faible ne peut pas faire les travaux de maçon ou d'aide-maçon. Ils sont en bonne santé, ils sont forts et c'est pour cela que nous les avons proposés aussi à participer à ces travaux.
Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face ici à la prison de Kabaré?
Même si nous battons pour améliorer les conditions, les difficultés ne manquent pas. Quant à nous, l'administration pénitentiaire, nous avons des agents non matriculés, de matriculés non payés. Nous espérons que nos autorités ne cessent pas de crier vers eux et ils nous font nourrir toujours de l'espoir et nous pensons que ça ira.
Madame Mouindo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, la directrice de la prison centrale des Cabarets au site Kivu, Pamela Mouindo, s'entretenait à Bukavu avec Rachel Kiesembangu. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.